Ah oui, c'est tout près.
Et tous les bâtiments noirs, ça c'est
c'est vrai, ouais, le Paris de cette époque était très sombre, les bâtiments pas du tout nettoyés comme maintenant. Et à cette époque, plutôt c'était la banlieue parisienne qui paraissait belle et chic et moderne, avec en effet des constructions modernes, tandis que l'intérieur de Paris semblait vraiment sombre, triste, vieux. Et ça a beaucoup changé dans les années 70-80. Là, c'est le Paris que vous voyez maintenant, tout à fait enrichi. Bon, eh bien, on peut commencer. Est-ce qu'il y a des questions sur les chapitres précédents? Pas de questions. Bon, on peut reprendre, si vous voulez, au chapitre 9. Alors, chapitre 9, pour nous, page 98. Je vais vous résumer les chapitres 9, 10, 11. Comme ça, on va survoler un peu, essayer aujourd'hui de recoller au programme 9, 10, 11. Dans le chapitre 9, les touristes que Gabriel a en quelque sorte séduit lui demandent de continuer son spectacle improvisé, et en même temps, Zazie le pince avec deux doigts comme ça, en attrapant un morceau de peau, hein, ça fait très mal. Donc d'un côté il y a les touristes, de l'autre côté il y a Zazie qui le pince comme ça, toujours sur le même sujet, hein, de l'homosexualité. Et finalement Gabriel décidera d'abandonner Zazie pour suivre les touristes. Peu étonnant, parce qu'il s'inquiétait quand même pour Zazie. Bon, il va les suivre. Gabriel accepte tout de même de partir avec Zazie, mais des touristes les retrouvent et font monter Gabriel dans leur taxi pour l'emmener à la visite de la Sainte-Chapelle. Zazie reste avec une femme qu'elle a rencontrée, d'abord décrite comme une bourgeoise, et qui commence à protester pour faire du bruit. En fait, c'est pour essayer d'attirer un policier. Et ça marche. Un policier arrive, et on apprendra qu'il s'appelle Trouscaillon. Zazie a l'impression de le connaître, sans dire d'où vient cette impression. Et quelques pages plus loin, quand Gabriel, à son tour, verra arriver ce policier, Trouscaillon, Gabriel aussi dira « Tiens, j'ai déjà vu cette tête quelque part ». Il se souvient de l'avoir vu, mais il ne sait pas où. Alors on verra encore un petit peu plus loin que... en fait, ce policier ressemble beaucoup, étonnamment, à Pedro, le type du début, qui avait ramené Zazie, etc. Qui avait perdu son identité, juste à la fin, la semaine dernière, avec le cordonnier Xidou. Ça, c'est pour le chapitre 9. Et puis, le chapitre 10... ce policier donc se met au service de la dame et de la petite fille, une sorte de mission un peu chevaleresque, hein, et il veut arrêter une voiture pour les emmener à la Sainte-Chapelle retrouver Gabriel. Il essaye, ça marche pas très bien, et bon, finalement, une voiture s'arrête à côté de lui pour lui demander où se trouve la Sainte-Chapelle. Une sorte de coïncidence un peu miraculeuse. Et dans la voiture, on découvre que cet automobiliste vient exactement de la même petite ville que Zazie, Saint-Montron ou Saint-Montron, et qu'il connaît d'ailleurs Zazie, qu'il la reconnaît quand elle dit quelque chose de bien particulier, hein, de bien Zazie. Il dit « Ah, tiens, c'est la fille de Jeanne Lalochère », et il n'a pas l'air très content. Hein, c'est-à-dire la réputation de Zazie, l'image de Zazie, sans doute à cause du procès ou d'autres choses, enfin, n'est pas très bonne. Et il aimerait bien, parce que cet automobiliste aimerait bien ne pas s'occuper de Zazie. Bon, enfin, finalement, il y est un peu obligé. Il s'arrête, il ne veut plus y aller, finalement il repart. 4 heures sonnent, on entend, donc pour nous c'est important aussi parce que ça nous donne l'heure à ce moment de l'histoire. Et finalement, il décide quand même d'y aller. D'ailleurs, il s'est retourné pour parler à Zazie et il a encore eu un petit accident avec un véhicule devant, et encore par hasard, c'est l'autocar de Fédor Balanovitch. Donc ils sont arrivés sur l'île de la Cité, près de la Sainte-Chapelle, mais également près du palais de justice, juste à côté. Le chapitre 11 commence, les passagers de la voiture retrouvent Gabriel et son public, toujours tout à fait séduit par le spectacle de Gabriel. Et en, comment dire, voyant ce succès, Gabriel décide, propose d'inviter tout le monde le soir à son vrai spectacle, à son spectacle de danseuse. Alors pour les touristes, ça peut être très, très bien, très amusant. Et en même temps, comme Zazie a repris ses questions, Gabriel lui a répondu très franchement, mais je crois que pour Zazie, ça n'a toujours pas de sens spécial, homosexuel, même s'il dit qu'il ne l'est pas, ça ne permet pas à Zazie de comprendre ce que c'est ou ce que ça n'est pas. Donc, il décide d'inviter aussi Zazie à son spectacle. Comme ça, on a une sorte de programme. Pour la première fois dans ce livre, on a une idée de ce qui va se passer. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas de programme. On avait simplement une possibilité de fin. C'est-à-dire, la mère de Zazie doit reprendre le train et avec sa fille qui doit lui être amenée à la gare. C'est la seule chose que l'on sait quant à l'avenir. Mais c'est plutôt un avenir de limite, de fin de texte ou d'après-texte. Tandis que, avec cette proposition du spectacle, Raymond Queneau donne enfin une sorte de direction, de sens au texte. On va en effet vers cette soirée qui s'annonce comme quelque chose de tout à fait étonnant, spectaculaire, au sens de spectacle. Et finalement, c'est nous aussi, les lecteurs, qui sommes invités au spectacle, dans un lieu de spectacle où Gabriel travaille. Donc, l'invitation pour les touristes, pour Zazie, et pour les lecteurs aussi, tout à fait clairement faite. Alors, Fédor, qui est le guide touristique, dit que c'est pas prévu, bon, on va essayer de s'arranger. Gabriel et lui trouvent une sorte d'arrangement en proposant un autre restaurant moins cher, donc on peut récupérer de l'argent, enfin, une histoire comme ça, et peut-être à l'avantage de tous, parce que bon, un restaurant chic, on mange bien, mais c'est pas très amusant. Tandis que le spectacle que propose Gabriel sera sans doute unique dans la mémoire de ces touristes. Donc c'est pas mal, je crois. Voilà, donc on arrange ça et on fait payer les touristes et le chapitre 11 s'arrête là-dessus. Alors, dans ces deux chapitres 10 et 11, on a vu apparaître deux nouveaux personnages, Trouscaillon, qui est ou qui n'est pas un personnage déjà connu avant, et une dame qui se présente comme une bourgeoise, qui parle très bien, très poliment, etc., et qui se nomme Madame Mouac, qu'on appelle la veuve Mouac, ce qui veut dire que son mari est mort et que elle est en quelque sorte une veuve qui cherche un autre mari, une sorte de veuve joyeuse, hein, pour reprendre un stéréotype aussi, un cliché du théâtre. Voilà. Alors si on revient aux détails du texte, après cette idée générale, on reprend à la page 98, au début du chapitre 9. Fédor invite ses touristes à regarder la gare d'Orsay, la gare d'Orsay sur le bord de la mer, 98. Et comme les touristes ne parlent pas français, Fédor leur parle dans leur langue, mais de temps en temps, il parle aussi en français. Et lorsqu'il parle en français, il dit des choses absolument incroyables qui ne sont pas du tout polies, c'est-à-dire qu'il se moque des touristes en leur disant, par exemple, « Ouvrez grand vos hublots, tas de caves. » C'est le début du chapitre 9. « Ouvrez grand vos hublots, tas de caves. » Vous avez une petite note. « Homme qui n'est pas du milieu, donc dupe en puissance. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très clair, cette note. « Cave, c'est quelqu'un qui n'est pas du milieu des bandits. » Qui n'est pas du milieu de la pègre. Ou on dirait au Japon, des yakuza. Quelqu'un qui n'est pas du milieu de yakuza, donc qui ne connaît pas certaines façons de faire, de vivre, de parler, et on considère comme des gens bêtes, justement, hein, qui ne sont pas informés, qui ne sont pas instruits. Ouvrez grand vos hublots, ça veut dire évidemment hublot au sens de fenêtre, alors ça peut être les yeux, ça peut être les oreilles, sans doute les yeux pour voir le paysage. Donc évidemment, parler à quelqu'un en lui disant « Ouvrez grandes vos fenêtres, ouvrez grand vos hublots », c'est un peu insultant. Hein, les yeux ne sont pas des fenêtres. Bon, c'est une sorte de métaphore argotique pour désigner les yeux. Et quand c'est nécessaire, Fédor leur parle dans une autre langue. En anglais, en allemand ou je ne sais quelle langue, on ne le dit pas. La gare d'Orsay, vous savez qu'aujourd'hui elle est devenue musée, mais à cette époque elle était encore gare. Avec, comme disait monsieur tout à l'heure, certainement des façades noires, pas du tout nettoyées. On visitait Paris tel qu'il était, et c'était déjà intéressant sans doute, hein, avec le commentaire « C'est pas rien comme architecture, et ça peut vous consoler de la Sainte-Chapelle si on arrive trop tard. » Ce qui vous pend au nez, avec tous ces foutus encombrements, à cause de cette grève de mes deux. On voit donc le langage de Fédor, tout à fait trivial, vulgaire. C'est pas rien comme architecture. Je crois que c'est pas tout à fait suffisant, hein, pour décrire l'architecture d'un monument quand on est guide. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas son travail sérieusement. Il a plutôt du mépris pour les touristes. Ça peut vous consoler de la Sainte-Chapelle si on arrive trop tard. Donc il est conscient qu'à cause des embouteillages, il n'est pas certain qu'il puisse visiter la Sainte-Chapelle. Mais, bon, au passage, on regarde les monuments. Et donc si on arrive trop tard, ce qui vous pend au nez, alors expression vulgaire encore, ce qui vous pend au nez, ça veut dire ce qui va peut-être vous arriver. Ce qui risque de vous arriver. c'est un danger, un risque, une menace, quelque chose qui vous pend au nez. Alors je crois que l'image de quelque chose qui pend au nez, c'est d'abord la goutte que les enfants ne pensent pas à nettoyer quand ils ont un rhume, par exemple. Hein, et donc ce sont les parents qui viennent avec le mouchoir et disent « Regarde ce qui te pend au nez. » Bon, cette image un peu sale, hein, quand même. Et je ne sais comment, cette image s'est transformée en une expression qui veut dire « ce qui risque de vous arriver » et qui n'est pas quelque chose d'agréable, qui n'est pas positif. Donc c'est un danger, c'est un risque, quelque chose d'inattendu, mais que l'on peut quand même un peu prévoir, hein, ce qui vous pend au nez, ce qui risque d'arriver, à cause des encombrements, et donc à cause de la grève de mes deux, encore une expression vulgaire, de mes deux, en désignant les parties génitales de l'homme. Souvent, les hommes disent quelque chose de mes deux, hein, ça veut dire donc cette expression vulgaire désignant le sexe masculin. Aujourd'hui encore, ces expressions, toutes ces expressions existent. Elles font partie du langage courant des Français dans un registre assez bas, hein, assez vulgaire. Donc ce ne sont pas les professeurs d'ici ou qui s'expriment de cette façon. Même avec mes amis, je n'ai pas ces habitudes-là, mais je peux le comprendre. Il est nécessaire pour un Français de connaître toutes ces expressions, même si on ne les utilise pas, parce qu'on doit quand même comprendre ce que les autres disent. Mais l'utilisation de ces expressions place automatiquement la personne qui les utilise dans une catégorie assez vulgaire de la population. C'est pour ça que certaines mauvaises paroles de l'actuel président de la République française ont déclenché quelques problèmes, parce qu'il utilisait parfois du vocabulaire de ce niveau, ce qui ne correspond pas à la fonction du président de la République. Comment est M. Sarkozy dans son intimité, ça ne m'intéresse pas, hein, ça ne me concerne pas. Mais comment il parle en tant que président de la République, ça me concerne aussi. Et j'ai le droit de ne pas être d'accord. Alors bien sûr, ici, pour un guide touristique, c'est presque la même chose que le président de la République. C'est quelqu'un qui fait un travail dans lequel il a l'obligation d'un certain respect, d'un certain niveau, d'une certaine qualité de parole, et il ne le fait pas. Donc, ça se transforme en mépris pour les personnes desquelles il vit. Hein, par l'argent qu'il gagne vient quand même de ces touristes. Alors, face à ce fait d'or, il est possible justement que les touristes soient très sensibles à la qualité de Gabriel. La qualité de sa parole, de son apparence, très bien habillée, sa façon de s'exprimer très polie, même littéraire, recherchée, on va dire, ça fait un contraste très fort. Alors Gabriel et Fédor se connaissent comme des gens qui travaillent dans le milieu de la nuit à Paris, hein, c'est le by night, comme disait Fédor la semaine dernière, mais ils ne sont pas au même niveau. Et Gabriel est dans la catégorie artiste, comme il le dit lui-même, donc il a une autre qualité. Et je crois que les touristes y sont tout de suite sensibles. Voilà quelqu'un qui peut nous guider mieux que le guide Fédor. Alors, nous guider est justement dans le paragraphe suivant, à la fin du paragraphe, « Il contemplait avec émotion l'archiguide Gabriel. » On a une petite note avec un jeu de mots sur l'archange Gabriel, bien sûr, hein, un personnage biblique d'une grande importance, puisque très proche de Dieu, messager vers les hommes, etc. Et cette notion d'archange, dans archange, il y a en effet le préfixe archi, hein, qui veut dire au-dessus, supérieur à. Et donc archiguide, c'est une sorte de, aujourd'hui on pourrait dire, superguide. Mais quand même avec une sorte de image religieuse, comme si Gabriel était un personnage messianique, un peu comme le Messie, hein, le Dieu qui est descendu sur la terre pour parler aux pauvres humains qui ne connaissent pas leur chemin sur la terre. Et direction la Sainte-Chapelle. Voilà donc, je crois, pour expliquer un peu mieux, hein, l'effet que produit Gabriel sur ses touristes, en contraste avec l'attitude négative, néfaste de Fédor. En haut de la page 99, continuez, crièrent les voyageurs en couvrant la voix de la petite. On veut ouïr, ajoutèrent-ils en un grand effort berlitzkoulien. Alors le berlitzkoulien s'entend, comme la note l'indique, hein, sur Berlitz School, qui était déjà une école d'anglais pour apprendre l'anglais en France dans les années 50. Je ne sais pas de quand date exactement cette école, mais elle est assez ancienne. Et qui signifie, dans ce sens, des gens qui ont pris des cours de langue, mais qui ne parlent pas très bien quand même. Donc ce sont des petits cours qui donnent un petit niveau, disons ce qu'on appellerait aujourd'hui des phrases clés, hein, des key sentences, pour faire quelque chose en tant que touriste. Mais ça ne veut pas dire qu'on comprend. Et par exemple, l'utilisation du verbe « ouïr » au lieu du verbe « écouter » ou « entendre », qui sont des verbes courants, est tout à fait déplacé. Hein, donc ça veut dire que soit par un dictionnaire, soit par un cours duquel on a retenu quelque chose, ils utilisent un verbe qui est considéré comme archaïque, qu'on utilise peu, et qui a un côté un peu comique, parce qu'il ressemble beaucoup au verbe « jouir ». Qui est bien sûr du côté du plaisir et très souvent du plaisir sexuel. Donc l'utilisation de « ouïr » par un étranger devant un Français est toujours une sorte de risque de comique, hein, disons. Il faut être prudent avec ce verbe. D'ailleurs, j'ai déjà entendu des Japonais qui utilisaient le verbe « jouir » dans son sens classique, c'est-à-dire avoir la jouissance, avoir le plaisir de profiter de quelque chose. Donc, on peut dire tout à fait, je voudrais jouir du paysage. Mais, lorsque c'est dans la bouche d'un étranger, les Français s'amusent tout de suite. C'est-à-dire, est-ce que cet étranger connaît le sens le plus courant, disons, de ce verbe ? Il y a cet amusement-là, donc faites attention vous aussi. Si vous avez cette tentation d'utiliser ce verbe, vous pouvez faire un clin d'œil à quelqu'un, hein, ça veut dire que vous aussi, vous savez que ce verbe a d'autres sens, et ça passera très bien. Hein, donc il n'est pas interdit de l'utiliser, mais il faut l'utiliser en étant bien averti du risque ou du comique. À la fin de ce paragraphe, presque au milieu de la page 99, dans le paragraphe, donc, analysant ce comportement étrange, les uns selon la méthode déductive, les autres selon l'inductive, ils concluent à la nécessité d'un pourliche. Il n'y a pas de note pour le mot pourliche, ça veut dire un pourboire, en anglais type, c'est-à-dire on va donner de l'argent qui n'est pas prévu dans le contrat, parce qu'il y a quelque chose de supplémentaire, quelque chose de particulier que l'on veut payer, pour lequel on veut donner de l'argent pour récompenser quelqu'un aussi. Hein. Donc Gabriel a tout à fait un rôle de supplément. Les touristes sont bien conscients que ça n'était pas prévu d'avoir une telle occasion d'être avec un artiste. Donc, on lui donne un pourboire ou on fait une collecte pour cela. Et tout à fait au milieu de la page 99, le mot francophone apparaît donc ici pour la première fois en écho, en réponse au mot xénophone. Hein, on a fini là-dessus la semaine dernière, le mot xénophone de la page 97, à la fin du chapitre 8. Comme si Raymond Queneau avait eu le projet d'utiliser ce mot francophone, peut-être. Alors, on ne sait pas dans quel sens. Est-ce que Queneau a d'abord inventé xénophone et ensuite il a fait francophone comme contrepartie, ou bien il voulait utiliser francophone et il a inventé xénophone. Il faudrait vérifier dans les manuscrits, peut-être, si j'ai un peu de temps. Je vous avais dit, il y a des manuscrits en ligne sur un site universitaire. On peut essayer d'aller fouiller dans ces manuscrits, mais en général, ça prend du temps. Il faut regarder des pages et des pages de documents PDF avec des images de textes écrits à la main et dans tous les sens, un peu particulier, mais toujours intéressant. À la page 100, Zazie réclame pour sortir de cet autobus, je ne sais pas pourquoi, ça ne lui convient pas du tout. Et comme elle demande, elle parle également du satyre qu'on a vu le matin, et elle dit « Alors, si c'est pas vrai, pourquoi le satyre t'a dit ça ?»« Ah, pardon, geste, c'est-à-dire geste de relativiser, ah, pardon, il n'est pas du tout démontré que ça ait été un satyre. » Ce « ait » n'existe pas en français, il s'agit d'une façon orale, disons, de prononcer le subjonctif du verbe avoir, c'est-à-dire que ça ait été un satyre. Hein, donc vous pouvez le comprendre comme ait, ait, du subjonctif du verbe être. Il n'est pas du tout démontré que ça ait été un satyre. Mais c'est vrai que dans le langage courant, on a tendance à transformer ce ait en ait. Et Queneau, alors, a transformé encore l'orthographe en mettant « ei » pour faire disparaître le verbe « avoir ». Ben, qu'est-ce qu'il te faut ? Ce qu'il me faut, des faits. Et il fit de nouveau un grand geste d'un air illuminé qui impressionna fortement les voyageurs, fascinés par le mystère de cette conversation qui joignait à la difficulté du vocabulaire tant d'associations d'idées exotiques. Pour les touristes, il y a donc un spectacle que constitue la conversation entre Zazie et Gabriel. Les touristes ne comprennent rien à ce que disent Zazie et Gabriel, mais les gestes de Gabriel avec sa dimension chrétienne ressemblent à une sorte de spectacle religieux, un peu comme au moment de Noël. On fait parfois des scènes dans la crèche avec les rois mages, la naissance, etc. Et s'il y a des paroles, on ne les comprend pas parce qu'elles sont en hébreu, en anglais, dans une autre langue. Bon, mais on comprend tout à fait l'histoire mimée par les personnages, par les acteurs. Ici, on a cette impression que les touristes assistent à un spectacle dont ils essayent de comprendre le sens dans un sens religieux. Et donc, les voyageurs, fascinés par le mystère de cette conversation. Ici, mystère a vraiment deux sens. Mystère parce qu'ils ne comprennent pas et mystère religieux de l'image de Gabriel. Alors, en bas de la page, Zazie s'esclaffa. Ça ne m'étonne, donc explosa de rire, hein, si vous voulez. Ça ne m'étonne pas du tout, dit la dame francophone, qui comprenait vaguement qu'on était sur le chapitre des complexes. Oh, mais pas du tout. Et elle biglait le colosse avec une certaine langueur. Donc il y a quand même une dame qui comprend un peu le français et qui regarde. Alors, bigler ici, ça veut dire regarder Souvent, c'est pas très positif, c'est regarder en louchant. C'est-à-dire, vous savez, en faisant croiser les yeux pour s'amuser. Bien sûr, il y a des gens qui ont naturellement les yeux un peu mal placés et tous les autres se moquent d'eux. Alors, on peut penser à Jean-Paul Sartre, hein, puisque tout le monde connaît le visage de Jean-Paul Sartre, qui avait en effet un œil comme ça et un œil comme ça. C'était un peu gênant, hein, pour être en face de lui. Mais il y a cette idée-là. Alors ici, ce n'est pas au sens d'un problème, mais c'est au sens d'une façon de regarder très forte, très intense. Évidemment, elle est séduite, tout à fait séduite par Gabriel, et elle le regarde avec une certaine langueur. Ici, langueur est un euphémisme, hein, une façon, réduite de dire qu'elle est très attirée, sexuellement attirée. Et donc la réaction de Gabriel, qui comprend très bien, Gabriel rougit et resserra le nœud de sa cravate après avoir vérifié d'un doigt preste et discret que sa braguette était bien close. Alors sa braguette, vous savez que c'est la fermeture du pantalon masculin devant. Il arrive qu'on oublie de le fermer et d'un seul coup on voit que des gens nous regardent. Et on dit, oulala, j'ai peut-être oublié de fermer ma braguette. Alors, on va dans un coin, comme ça, puis hop, rapidement, on ferme. Bon, tout va bien. Alors, parce que un homme qui n'a pas fermé sa braguette, ça peut être aussi un satyre, un exhibitionniste. Vous connaissez le mot exhibitionniste ? Ce sont des gens qui se promènent dans les rues ou dans les parcs avec un manteau qu'ils ouvrent d'un seul coup devant d'autres personnes. Alors, quelqu'un qui laisse volontairement sa braguette ouverte doit être un petit peu dans ce genre. Alors, Gabriel s'inquiète, hein, en voyant que cette femme est très très attirée. Il se demande, oulala, est-ce que j'ai pas laissé paraître un signe, hein? Et puis il resserre son nœud. Alors bon, c'est vrai que le nœud aussi symboliquement a une relation avec le sexe, qu'on utilise aussi le mot nœud pour parler du sexe parfois, et donc il y a une relation entre toutes ces choses. Mais on voit que Gabriel est finalement assez pudique, hein, c'est-à-dire il ne répond pas à l'excitation de cette dame par un geste d'invitation. Au contraire, il s'inquiète beaucoup pour se défendre de cette possible agression par une dame. Voilà, bon, comment ça se passe? Alors, comme je disais tout à l'heure dans le résumé, en haut de la page 101 ici, Zazie continue à pincer son oncle, ce qui doit l'énerver aussi de l'autre côté. Elle le pinça de nouveau sévèrement. Gabriel fit un petit saut en criant « Ah oui !» Bien sûr qu'il aurait pu lui foutre une tarte, donc lui donner une gifle, qui lui aurait fait sauter deux ou trois dents. Image tout de suite très violente de la gifle. Mais qu'auraient dit ses admirateurs? Bon, il s'inquiète quand même pour son image s'il bat une enfant. Ils préféraient disparaître du champ de leur vision que de leur laisser l'image pustuleuse et répréhensible d'un bourreau d'enfant. Un encombrement appréciable s'étant offert, Gabriel, suivi de Zazie, descendit tranquillement, tout en faisant aux voyageurs déconcertés de petits signes de connivence, hypocrite manœuvre en vue de les duper. Donc Gabriel accepte de sortir de l'autocar en profitant d'un arrêt dans les embouteillages. Et l'autocar repart avec des touristes très attristés, hein, d'avoir perdu leur guide. Quant à Fédor Balanovic, les allées et venues de Gabriella le laissaient tout à fait indifférent et il ne se souciait que de mener ses agneaux en lieu voulu avant l'heure où les gardiens de musée vont boire, une telle faille dans le programme n'étant pas réparable car le lendemain, les voyageurs partaient pour Gibraltar, aux anciens parapets. Tel était leur itinéraire. Ici, Fedor Balanovitch, qui connaît Gabriel donc par ses activités nocturnes, l'appelle Gabriella, hein, le côté féminin. Et ça pourra évidemment servir plus tard, hein, lorsqu'on pensera, repensera à Marceline, la femme de Gabriel, et qui peut-être s'appelle Marcel. Alors, si Gabriel s'appelle Gabriella, si Marceline s'appelle Marcel, on voit bien qu'on a affaire à un couple homosexuel et travesti qui peut être un représentant des transformations, des orientations sexuelles, hein, comme on disait à cette époque, après la libération et après la Seconde Guerre mondiale. Mais sans oublier que ces comportements existaient déjà, hein, que Proust ou Gide ou d'autres écrivains en avaient proposé des exemples dans la littérature. Bon, ici, avec une image plus populaire que du côté de Proust et de Gide. Plus populaire, ce qui voudrait dire qu'il y en aurait peut-être plus, ou dans d'autres catégories sociales qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas prévues dans la littérature. Ça serait à vérifier, évidemment. Fédor est donc soucieux d'emmener ses touristes, qu'il appelle ses agneaux, bon, classique métaphore, mais qui peut avoir encore une relation avec la Bible, puisque nous sommes tous des agneaux de Dieu, le pasteur, notre pasteur. Il veut emmener ses touristes avant l'heure où les gardiens de musée vont boire. Alors cette heure où les gardiens de musée vont boire ressemble fortement à un vers de Victor Hugo dans le poème « Bose endormi » où il est question de l'heure où les lions vont boire. C'était l'heure exquise, c'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Ici, on retrouve la même forme de la phrase. L'heure où les gardiens de musée vont boire. Évidemment, nous savons que les lions vont boire de l'eau. Nous pouvons penser que les gardiens de musée ne boivent pas que de l'eau. Mais c'est leur problème. Ça veut dire surtout qu'ils ont fini leur travail, qu'ils sont au repos. Et c'est le sens dans le poème de Victor Hugo, hein, qui est dans la légende des siècles. Alors, légende des siècles, première partie. Voilà. En dehors du thème de l'heure de repos, du moment où on peut se reposer après avoir chassé, couru, travaillé, etc., il n'y a pas d'autre raison d'approfondir la relation avec Victor Hugo. C'est une sorte de jeu, de citation, de référence que Queneau aimait beaucoup et que les gens instruits en général aiment beaucoup en parlant, de faire quelques références comme ça, suivi d'ailleurs d'une autre. Avec les voyageurs partaient pour Gibraltar aux anciens parapets. Alors vous savez sans doute que Gibraltar se trouve à une sorte de limite géographique de l'Europe, au sud de l'Espagne, et cette limite géographique correspond en effet à l'idée de parapet, tel que vous pouvez le trouver dans le dictionnaire. Un parapet, c'est une construction, une muraille pour se défendre contre un ennemi, contre un envahisseur. Mais l'expression « quelque chose aux anciens parapets », en l'occurrence « l'Europe aux anciens parapets », c'est une citation de Rimbaud. Une citation de Rimbaud est précisément du poème que vous connaissez sans doute, qui s'appelle « Le bateau ivre ». Le bateau ivre de Rimbaud. Donc dans ce poème, il est question de diverses choses, mais là aussi, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'approfondir, car seule l'image, si vous voulez, d'une limite est importante, et l'idée qu'on utilise une référence littéraire pour enrichir son discours, peut-être exagérément, hein, ça peut énerver aussi le public qui n'a pas les mêmes références. Et tel était leur itinéraire. Alors là aussi, les connaisseurs de Queneau insistent sur le fait, par exemple, cette forme de phrase « tel était leur itinéraire » n'est pas une citation précise, mais tout à fait dans la forme des expressions de Homère. Homère, donc en grec ou en latin, dans l'Iliade et l'Odyssée, Odysseus, on trouve justement ce type d'expression avec cette forme de construction syntaxique qui vient après une phrase pour conclure un chapitre, hein, du type « tel était leur itinéraire », donc une sorte de imitation de Homère. Alors bon, on sait que Queneau a beaucoup étudié, il a beaucoup de références, de connaissances, et il s'amuse avec tout ça. On voit que d'ailleurs, même si on ne connaît pas ces références, on peut tout de même s'amuser beaucoup en lisant Zazie dans le métro. Ce n'est pas un livre uniquement destiné aux gens très cultivés. On peut s'amuser sans être très cultivé. Mais si on est un petit peu plus cultivé, on peut s'amuser plus. Donc il y a une sorte de premier degré, deuxième degré de l'amusement. Alors, c'est pour ça aussi qu'on peut l'expliquer. Alors, dans le poème de Rimbaud, le sens de « Europe aux anciens parapets » signifie en effet la limite, hein, ultime de l'Europe au sens d'un lieu protégé, d'un lieu de développement, évidemment du christianisme, mais aussi peut-être de la modernité, d'une certaine idée de l'humanité qui ne serait pas la même au-delà des limites de l'Europe. Et vous connaissez chez Rimbaud cette expression de la limite qui est aussi une forme de lassitude de l'intérieur de l'Europe et du monde développé et qui amènera Rimbaud à partir, à abandonner cette civilisation. Donc on peut s'inquiéter un petit peu, est-ce que quelqu'un ne va pas essayer de partir, de s'enfuir lui aussi jusqu'en Abyssinie comme Rimbaud. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas là. Zazie, qui pinçait son tonton, continue sur les mêmes thèmes, hein, avec la même question, en bas de la page 101, si tu étais un homosexuel ou pas, primo, et deuxio, donc premièrement, et deuxièmement, où t'avais été pêché, toutes les belles choses en langue forestière que tu dégoisais tout à l'heure. C'est-à-dire, comment il est possible que tu connaisses des langues étrangères? Comment il est possible que tu saches parler des langues étrangères? Et alors, la première fois, comme on l'a vu la semaine dernière, la question de Zazie sur l'homosexualité et la question de Zazie sur la langue étrangère semblaient deux questions différentes, tout à fait sans relation. Mais elle répète ici ces questions et en les associant, premièrement, deuxièmement. Donc il semble que on puisse imaginer dans la tête de Zazie qu'il y a peut-être une relation entre les deux. Alors, de notre point de vue, évidemment, c'est tout à fait ridicule, hein, c'est tout à fait impossible, mais du point de vue d'une petite enfant qui ne connaît que le français dans un petit village, etc., le mot nouveau homosexuel dont elle ne connaît pas le sens et l'utilisation de langue étrangère, en effet, ont une relation. Parce que, pour elle, homosexuel, c'est déjà une langue étrangère. Jusqu'à ce qu'elle comprenne le mot, la forme du mot, le sens du mot. Bon, pour l'instant, on est presque dans la langue étrangère pour elle. À la page 102, arrive une bourgeoise, justement, pendant que Zazie est en train de taper sur son oncle. Une bourgeoise qui maraudait dans le coin, qui se promenait dans le coin, s'approcha de l'enfant pour lui dire ses mots. « Mais voyons, ma petite chérie, tu lui fais du mal à ce pauvre monsieur. Il ne faut pas brutaliser comme ça les grandes personnes. » Bon, on a une sorte de situation à l'envers. Hein, d'habitude, c'est un adulte qui frappe un enfant et quelqu'un vient en disant « Il ne faut pas faire ça. » Alors, la réaction de Zazie est automatique. « Grande personne, mon cul. Hein, » c'est-à-dire, je me moque des grandes personnes ou je n'ai pas de considération spéciale. Il s'agit aussi de l'utilisation de certaines expressions. L'expression « grande personne » qui a un sens tout de suite particulier. Et juste après, la dame continue à parler et elle dit « elle est éminemment condamnable » en parlant de la violence. Le mot « condamnable » n'est peut-être pas du vocabulaire de tous les jours. Donc, pour Zazie, c'est encore quelque chose qu'elle peut reprendre en disant qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle n'est pas familière. « Condamnable, mon cul, je ne vous demande pas l'heure qu'il est. » C'est-à-dire, « je ne vous ai rien demandé, vous n'avez pas besoin d'intervenir dans nos affaires. » Bien sûr, la dame répond sur le thème de l'heure. « 16h15, dit la bourgeoise. » Ça nous donne l'heure aussi, hein, si c'est la bonne heure. Bon. Et on continue sur ce même thème. Hein, « Éducateur, dit la dame, éducateur mon fils, occupez-vous de vos fesses. » À la fin, dit Gabriel. « Moi, j'ai mes idées sur l'éducation. » « Lesquelles ?» demanda la femme en posant les siennes sur le banc à côté de Gabriel. Alors, ce que l'on voit ici, ce sont donc des reprises de mots. Quelqu'un utilise un mot, quelqu'un d'autre le reprend en ajoutant quelque chose. C'est un peu comme un certain jeu que font les enfants. Vous l'avez sans doute fait aussi en japonais à l'école. En français, quelqu'un dit « marabout » et l'autre doit reprendre « bout » et dire quelque chose. Donc ça donne « marabout »,« bout de ficelle »,« selle de cheval »,« cheval de course »,« course à pied », pied à terre, terre de feu, feu follet. Et si on ne trouve pas, on a perdu. Le jeu est comme ça. Alors ici, on a l'impression un petit peu de ce jeu-là. Grande personne mon cul. Condamnable, condamnable mon cul. Éducateur, bon, il n'y a pas mon cul, mais on a occupez-vous de vos fesses. Je vous demande pas l'heure qu'il est. Elle répond justement l'heure qu'il est, 16h15. Et enfin, on arrive aux fesses. La dame, occupez-vous de vos fesses à la fin. Lesquelles ? Demanda la dame en posant les siennes sur le banc à côté de Gabriel. Les siennes, c'est-à-dire ses fesses, c'est-à-dire elle s'assoit sur le banc à côté de Gabriel. Hein, donc on a ce jeu comme ça, un peu de ping-pong, hein, avec les mots. Alors, à la page 103, Zazie s'assit, elle aussi, de l'autre côté de Gabriel, et le pinça encore. Voilà, je passe quelques lignes, hein, ou quelques pages, qui ne sont pas très, très importantes, à mon avis. Si vous avez des questions, hein, vous y reviendrez après. Peut-être... en bas de la page 105. Donc la discussion entre Gabriel et la dame porte sur Zazie, sur l'éducation de Zazie et sur les raisons pour lesquelles un homme comme Gabriel se trouve avec une petite enfant comme Zazie, etc. Et la dame, en quelque sorte, arrive à une conclusion en disant, en bas de la page 105, la dame fit ensuite cette remarque, non moins judicieuse que la précédente. « Vous ne semblez pas très bien la connaître, cette enfant. On dirait que vous êtes en train de découvrir ces différentes qualités. Elle roula le mot « qualité » entre des guillemets. « Qualité, mon cul », grommela Zazie. « Grommela », c'est-à-dire pas très fort, hein, avec la bouche pas contente. « Vous êtes une fine mouche », dit Gabrielle. « En fait, je ne l'ai sur les bras que depuis hier. » Alors, une fine mouche, ça veut dire quelqu'un qui comprend bien, qui devine bien, qui est intelligente dans la situation. Et donc, Gabriel explique qu'il n'a Zazie avec lui que depuis hier. « Avoir sur les bras », c'est l'expression « avoir quelqu'un sur les bras », ça veut dire « avoir à s'occuper de quelqu'un ». Je vois, elle voit quoi ? Demanda Zazie. Est-ce qu'elle sait ? Dit Gabriel en haussant les épaules. Négligeant cette parenthèse plutôt péjorative, la veuve ajouta. Et c'est votre nièce ? Exactement, répondit Gabriel. Et lui, c'est ma tante, ajouta Zazie, qui croyait la plaisanterie assez neuve, ce qu'on excusa étant donné son jeune âge. C'est-à-dire que Zazie commence à imiter ce que d'autres ont dit. Par exemple, le type Pedro avait dit « le tonton est une tata ». Bon, Zazie, même si elle ne comprend pas, joue avec ces mots nouveaux pour elle, hein, elle est contente de les utiliser. Bon, évidemment, le mot « tante » est déjà connu de Zazie, mais elle a l'impression qu'il a un autre sens qu'elle ne connaît pas encore. Et à ce moment-là, arrivent des gens dans un taxi, qui sont en fait un sous-groupe de l'autocar, qui sont venus rechercher Gabriel, considérant qu'ils avaient absolument besoin de lui. « Hello !» s'écrièrent des gens qui descendaient d'un taxi, les plus mordus d'entre les voyageurs, la dame francophone en tête, revenus de leur surprise, pourchassaient leur archiguide à travers le dédale lutétien et le magma des encombrements, et venait avec un pot d'enfer de remettre la main dessus. Ils manifestaient une grande joie, car ils étaient sans rancune au point de ne pas même soupçonner qu'ils avaient des raisons d'en avoir. Se saisissant de Gabriel, au cri de « Montjoie, Sainte-Chapelle !», ils le traînèrent jusqu'à leur véhicule, l'insérèrent dedans non sans habileté, et s'entassèrent dessus pour qu'il ne s'envolât point avant qu'il leur eût montré leur monument favori dans tous ses détails. Ils ne se soucièrent point d'emmener Zazie avec eux. La dame francophone lui fit simplement un petit signe amical et d'une ironique pseudo-connivence, tandis que le bahut démarrait, cependant que l'autre dame, non moins francophone d'ailleurs mais veuve, faisait des petits sauts sur place en poussant des clameurs. Les citoyens et citoyennes qui se trouvaient dans le coin à cette heure se replièrent sur des positions moins exposées au tintouin. Alors, on peut remarquer tout d'abord que dans ce chapitre 9, il y a beaucoup plus qu'avant des paragraphes de narration. Jusqu'à maintenant, on avait beaucoup plus souvent des dialogues avec quelques petits commentaires, parfois des dialogues un peu longs, mais très peu de narration. Ici, on voit des paragraphes de narration dont la longueur augmente. Le narrateur est devenu un personnage important. Il s'exprime comme ça, sur de longues périodes. Et on verra tout à l'heure qu'il peut même résumer complètement une conversation, alors qu'avant, il en donnait chaque parole. Ici, c'est un résumé de ce qui se passe avec les touristes. Et le narrateur s'exprime avec parfois, comme on l'a vu dès le début, une certaine familiarité ou vulgarité. Dans ce paragraphe, à la quatrième ligne, les touristes venaient avec un pot d'enfer de remettre la main dessus. Alors, mettre la main dessus, ça veut dire le trouver. Hein, ils ont trouvé Gabriel. Et avec un pot d'enfer, ça veut dire avec beaucoup de chance. Beaucoup de chance. La chance se dit parfois le pot, avoir du pot. Là, je vous j'avoue que je ne vois pas l'origine de cette expression, sinon peut-être que certains jeux de chance se font avec une sorte de gobelet, de pot, et avec un dé par exemple. Là, on joue comme ça avec un dé, et on lance le dé pour voir le chiffre. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce pot-là ? Je l'ignore. Mais en tout cas, l'expression « avoir du pot », c'est « avoir de la chance ». De façon familière, pas trop vulgaire. Quelqu'un qui a gagné, ou qui a réussi, ou qui a trouvé un travail, etc. Il dit « j'ai eu du pot ». Si on a attrapé son train après avoir bien couru et on avait peur de ne pas l'avoir, on dit « ah, j'ai eu du pot, hein, j'ai eu le train ». Et alors, si on a eu une chance vraiment très importante, on va ajouter quelque chose, avoir un pot de quelque chose. Donc ici, d'enfer, au sens exagéré de l'endroit le plus inaccessible. Alors, il y a beaucoup d'expressions d'exagération qui s'expriment avec l'enfer, quelque chose d'enfer. Un film extraordinaire, on va dire, c'était d'enfer. Une soirée avec une très bonne ambiance, on dira, il y avait une ambiance d'enfer. Bizarrement, on ne dira jamais une ambiance de paradis. Je crois que c'était Philippe Solers qui avait fait remarquer, dans une émission ou dans un texte, j'ai oublié, que on utilisait toujours l'enfer pour des expressions positives d'exagération. Mais on n'utilisait jamais le paradis. Alors que, normalement, on devrait plutôt souhaiter le paradis. Mais le paradis a une image de tranquillité, de calme, qui ne correspond pas avec la notion, justement, ici, d'exagération, d'extrémité, de mouvement, d'agitation, de ce qu'elle a. Bon. Cette exagération ou hyperbole, hein, hyperbole, c'est l'exagération aussi, va se continuer avec le cri de Montjoie Sainte-Chapelle. Alors vous avez une petite note là, hein, c'est sur le modèle du cri de guerre, Montjoie Saint-Denis, qui était la devise des Capétiens. Capétiens, c'est une famille royale française de Hugues Capet, qui était un roi français et qui sera une des branches, disons, de la succession royale du royaume de France. Donc ce cri « Montjoie Saint-Denis », c'était pour appeler tous les guerriers à se battre avec courage et donc la transformer en « Montjoie Sainte-Chapelle ». En quelque sorte, on peut dire que Gabriel a été enlevé par les touristes. C'est ce que la dame va dire après, en disant qu'il a été kidnappé, kidnapping, donc tout le monde connaît ce mot-là, mais Queneau va faire ce qu'on appelle un mot valise, c'est-à-dire associer deux mots dans un seul, avec guide et kidnapping, on va faire guide-nappé. Il a été guide-nappé. Et ceux qui l'ont guide-nappé s'appellent donc des guide-nappeurs. Alors elle crie « Au guide-nappeur, au guide-nappeur hein, !» en bas de la page 106. Zazie ne comprend pas, mais c'est justement pour faire venir un policier. Un policier arrive. Il s'appelle d'abord Flicard, en haut de la page 107. Un peu plus loin, il s'appelle Policeman, dans la même page. Et vers le milieu de la page, il s'appelle sergent de ville. Tout ça, ce sont des noms pour un policier plus ou moins courant, plus ou moins vulgaire, comme Flicard, qui est plutôt vulgaire. Et la dame, au milieu de la page 107, qui s'exprime d'une façon un peu archaïque, justement, comme Montjoie Saint-Denis, en disant « Courons su au guide-nappeur !» qu'elle dit « Et à la Sainte-Chapelle, nous le délivrerons. » On a l'impression d'une parole de roi qui parle à ses chevaliers pour les encourager à la guerre. Courons sus, sus, qu'on prononce aussi sus, sus au kidnappeur, et ce qui veut dire sur. C'est une forme ancienne, archaïque de sur, en direction de, vers les kidnappeurs, vers les ennemis, bien sûr. Donc, courons sus au kidnappeur, c'est-à-dire attaquons, attaquons les kidnappeurs et nous le délivrerons, délivrer Gabriel, bien sûr, à la Sainte-Chapelle. Ça fait un contraste, d'ailleurs, avec l'expression du policier qui dit « ça fait une trotte ». Ça fait une trotte, ça veut dire « c'est loin ». Assez long trajet à trotter, c'est-à-dire au trot d'un cheval. Vous savez que le trot d'un cheval, c'est la façon de marcher du cheval quand il pose ses pattes les une après l'autre. Une, deux, trois, quatre, une, deux, trois, quatre. Donc il y a plusieurs façons de marcher pour un cheval. Marcher ou courir, je ne sais pas comment on doit dire d'ailleurs. Le trot, le galop. Alors, un cheval au galop va bien sûr beaucoup plus vite, et vous avez vu sans doute déjà, il soulève ses pattes deux par deux, pour les poser les unes après les autres, alternativement. Le cheval au galop passe un certain temps sans toucher terre, dans chaque galop. Tandis que le cheval au trot a toujours au moins deux pieds par terre. Deux pieds, sinon trois. Bon, une petite différence. Alors, si on va au trot, évidemment, on ne va pas vite. C'est ça que ça veut dire. Trop, trotter. Mais c'est une expression assez familière qui est en contraste tout à fait avec la façon de parler de la dame, archaïque, courons su, nous le délivrerons, etc. Échange de politesse entre Zazie et la dame, c'est tout à fait incroyable. Zazie est polie. Zazie peut être polie. On n'y croyait pas. Elle a raison, dit Zazie qui était près de ses sous. Elle est moins conne que je ne croyais. Je vous remercie, dit la dame enchantée. Il n'y a pas de quoi, répliqua Zazie. Tout de même, c'est gentil, insista la dame. Ça va, dit Zazie modestement. Bon, ces échanges de politesse montre peut-être un changement de la part de Zazie. On verra un petit peu plus loin que Zazie, le nom de Zazie, va être suivi parfois d'adverbes tout à fait imprévus jusqu'à maintenant. Alors, où est-ce que je les ai mis? Où est-elle, la Zazie? Zazie, page 116. 116, c'est dans le chapitre 10. Vers le milieu de la page 116, une remarque de Zazie, c'est qu'il cause pas mal quand il veut, remarqua Zazie, impartialement. Là, l'adverbe impartialement est tout à fait étonnant de la part de Zazie, qui jusqu'à maintenant a toujours été très partial. Alors, ça veut dire que peut-être quand même l'attitude de Zazie change progressivement. Elle est peut-être un petit peu en train d'évoluer aussi, de mûrir, de grandir avec l'influence de toutes ces aventures. Je reviens donc à la page 108. Zazie rappelle son histoire familiale au milieu de la page 108, pour expliquer qu'elle connaît déjà les policiers, elle sait ce que c'est que des policiers, elle rappelle son histoire familiale. À la page 109, « Alors, dit la veuve, c'est tout ce que vous savez faire, mais remuez-vous donc un peu. C'est tout ce que vous savez faire » ressemble aussi à l'expression du... De l'oiseau, de la verdure, s'appelle. Tu causes, c'est tout ce que tu sais faire. Montrez-nous vos talents, qu'elle lui dit en accompagnant ces mots, d'une œillade aphrodisiaque et vulcanisante. Alors on voit que maintenant, la veuve Mouak est tout à fait intéressée, tout à fait séduite par le policier. C'est une sorte de répétition de ce qu'on voyait tout à l'heure avec Gabriel, à qui une dame s'intéressait beaucoup. On voit maintenant ce policier à qui la bourgeoise, très polie, très bien mise, s'intéresse à son tour beaucoup. Ce qui veut dire de la part de Queneau la volonté de montrer qu'il existe une catégorie de dames qui sont quand même en train de chercher et d'essayer de séduire, d'attraper un homme, qui sont des veuves, des femmes seules, etc. Bon, ça existe aussi, bien entendu, et ici d'une façon comique, avec cette œillade. Œillade, c'est une façon de regarder, avec l'œil, aphrodisiaque et vulcanisante. Alors, les deux mots peuvent avoir un sens séparé. Aphrodisiaque, c'est ce qu'on dit de certains produits que l'on peut consommer dans le but d'avoir plus d'excitation. Alors, en France, on dit que le gingembre ou d'autres choses comme ça sont aphrodisiaques. Vous avez peut-être pu le vérifier ou pas, je ne sais pas. Et puis, vulcanisante, on utilise le mot vulcaniser pour indiquer un certain état de matière qui devient liquide après avoir été chauffé beaucoup. Donc là, c'est l'idée de chaleur excessive qui va se proposer. Mais l'association des deux, aphrodisiaque et vulcanisante, permet aussi de se rattacher, comme l'indique la note, aux amours de deux personnages mythologiques qui sont Aphrodite, la déesse de l'amour, et Vulcain, le dieu du feu, et qui ont des relations amoureuses dans la mythologie grecque, gréco-romaine. C'est à cette page 109, qui est donc la fin du chapitre 9, que Trouscaillon se nomme. Trouscaillon. Attendez, dit le flicman, soudain mis en mouvement. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir ce dont est capable Trouscaillon. Il s'appelle Trouscaillon, s'écria Zazie enthousiasmée. Eh bien moi, dit la veuve en rougissant un tantinet, je m'appelle Madame Mouak, comme tout le monde, qu'elle ajouta. Donc là, les deux noms nouveau arrive en même temps comme une sorte de chute à la fin du chapitre 9. Comme si ce chapitre 9 faisait en quelque sorte mystère du nom de ces nouveaux personnages. Oui, c'est un petit peu le contraire d'ailleurs du chapitre d'avant où on a découvert Gridou. Gridou était nommé tout de suite et la fin du chapitre et plutôt avec des problèmes d'identité de l'autre. Mais maintenant, voilà, ça arrive à la fin. Alors ces deux noms, pour vous, japonais, sont peut-être, disons, quelconques, comme des noms français, mais pour les Français, ces deux noms ont une sonorité ridicule, les deux, d'une façon différente. Trouscaillon, on ne sait pas très bien à quoi on peut le rapprocher, mais l'idée de trousse, trousse troussée, trousse d'abord c'est une boîte où on met ses crayons, une trousse, et puis troussée ça veut dire remonter ses jupes aussi, et puis le haillon, caillon, on utilise pour par exemple un petit marin, un très jeune marin qui commence à travailler sur un bateau, il s'appelle un mousse, et s'il est vraiment petit on l'appelle un moussaillon. Et donc le chef, je sais pas, de l'équipe du bateau appelle bon les moussaillons à l'avant, à la manœuvre, etc. Bon, ce nom de moussaillon, c'est assez mignon. Mais avec trousse-caillon, très très amusant et presque désagréable quand même. Et puis mouac, alors là mouac, on voit pas du tout ce que ça peut être. Ça sonne un peu comme couac, qui est un bruit particulier. Et en même temps, peut-être aussi moite. Vous connaissez le mot moite? M-O-I-T-E, qui veut dire un peu humide, mais d'une façon désagréable. Hein, humide et un peu sale et un peu vieux, c'est moite. En général, on dit que quelqu'un qui a les mains toujours humides, vous savez, on n'aime pas tellement serrer la main de quelqu'un qui a la main humide, sont les mains moites. Donc dans ce chapitre, on a découvert ces deux nouveaux personnages et ils vont rester maintenant assez longtemps. Au chapitre 10, donc page 85, non c'est pas ça, page 110, on l'a déjà compris, mais ça se trouve répété au début du chapitre, à cause de la grève et des problèmes d'encombrement, il y a beaucoup plus de voitures. Alors le policier propose d'utiliser sa fonction et son sifflet pour arrêter une voiture et en quelque sorte demander autoritairement d'utiliser cette voiture. Alors ça s'appelle réquisition. On utilise dans le vocabulaire policier. Réquisitionner un véhicule qui vient aussi de réquisite, c'est-à-dire requête ou quête, hein, c'est-à-dire quelque chose qu'on a demandé. Donc il essaye de réquisitionner un véhicule. Et donc il siffle dans son sifflet, son petit sifflet à roulette. Et pendant quelque temps, ça ne marche pas très bien, ça sert même à rien. On a l'impression de voir, bien sûr il y a une scène dans le film Zazie dans le métro, mais également dans certains films de Jacques Tati. On peut voir aussi un policier qui essaye de faire la circulation d'une façon tout à fait chaotique en provoquant beaucoup plus de problèmes qu'il n'en résout. Comme on disait tout à l'heure, le narrateur exprime de plus en plus la capacité qu'il a de résumer la situation et de laisser moins parler les personnages. On le voit ici avec des expressions beaucoup plus riches et même un petit peu archaïques, un petit peu anciennes. Dans ce premier paragraphe du chapitre 10, il parle de quantité accrue. À la troisième ligne, il utilise l'expression « cependant que ». Deux lignes plus loin, fondant le principe de leur réussite sur la solidarité inusuelle que devait provoquer, etc. Ce sont des constructions complexes du point de vue grammatical qui peuvent être d'ailleurs pour vous assez difficiles à comprendre. Elles pourraient être transformées facilement en phrases simples, ce qui veut dire que le narrateur choisit de complexifier sa façon de s'exprimer. Dans quel but alors, hein? Est-ce que c'est dans un but de précision, dans un but scientifique, hein, puisque, par exemple, fonder le principe sur, c'est une expression un peu scientifique ou de la loi aussi, hein, de la légalité. Ensuite, au paragraphe suivant, les voitures qui passaient poursuivirent leur chemin. Donc ça ne marche pas très bien, hein, ce qu'essaye de faire tout ce canon. Des cyclistes, etc. Les deux roues motorisées accrurent la décibélité de leur vacarme et ne s'arrêtèrent point. Qu'est-ce que ça veut dire ? Accrure, c'est le verbe accroître, ça veut dire augmenter. La décibélité, c'est un mot qui n'existe pas, mais qui est formé sur décibel, c'est l'unité de bruit que l'on peut mesurer aussi, et leur vacarme, c'est-à-dire le bruit qu'ils font. Donc, il y a des deux roues, c'est-à-dire des motos, deux roues motorisées, enfin, ce sont des motos, les motos font plus de bruit. Voilà, on peut dire simplement, les motos font plus de bruit. Alors pourquoi le narrateur juge nécessaire de s'exprimer en disant « Les deux roues motorisées accrurent la décibelité de leur vacarme et ne s'arrêtèrent point ». Une sorte de préciosité. On va dire qu'il y a une volonté du narrateur de s'exprimer d'une façon de plus en plus précieuse. On pourrait même dire peut-être prétentieuse, comme si le narrateur commençait à vouloir prendre plus de place. Il essaye de prendre toute la place. Bon, les personnages, écartez-vous, c'est moi le narrateur plus important. Hein, puis je vais vous montrer comment je sais bien m'exprimer en français, avec toutes ces belles expressions, la langue de Homère, etc. On peut dire aussi qu'il devient pédant, pédantisme. Bon, tout ça est valable. En bas de la page, Trouscaillon roucoula, cette fois le véhicule freina. Et puis, au milieu de la page 111, une roulade de son aigu attira de nouveau leur attention. Alors, il s'agit de l'utilisation du sifflet. Le sifflet dans lequel le policier siffle et avec lequel il essaye d'arrêter les voitures. Alors on a roulade, ça veut dire la... Vous savez, dans le sifflet, il y a une petite boule qui tourne et qui vibre et qui produit le son du sifflet. Et donc roulade au sens de quelque chose qui roule dans le sifflet. Et en bas de la page précédente, donc 110, roucoula. Je crois que c'est la même idée, mais avec l'idée que le sifflet produirait un bruit comme un pigeon. Parce que roucouler, c'est le cri, théoriquement, hein, du pigeon. Le pigeon roucoule. D'autres oiseaux s'expriment d'une façon différente. Alors, je me suis aperçu d'ailleurs à ce sujet que, en français, il y a un mot différent pour la façon de crier ou de faire du bruit de presque chaque animal. Et on m'a dit qu'en japonais, ça n'existe presque pas. Il n'y a pas de mots différents pour exprimer le bruit, je sais pas, d'un lion, d'un tigre, d'un... etc. Alors qu'en français, on va trouver chaque fois un verbe différent. Alors, tous les Français ne connaissent pas tous ces verbes, hein, bien entendu. Mais, par exemple, on sait que le lion rugit, on sait que l'éléphant barrit, et un certain nombre. Ça peut faire des jeux, d'ailleurs, hein, entre des amis ou entre des enfants à l'école. Mais, en japonais, donc, ça n'existe pas ou beaucoup moins. Donc là, faites attention, il y a tout un champ du vocabulaire français qui peut être intéressant pour vous. Donc, roucoulade, roucoula, comme un pigeon. À la page 111, on a un autre type d'effet comique qui pourrait ressembler aussi à un effet de Jacques Tati dans un film. C'est l'effet de répétition identique ou quasiment identique. Alors, pour nous, c'est bizarrement en haut et en bas de la page 111. Pour vous, donc, c'est toujours au début du chapitre 10, hein. Deux voitures différentes qui ont été arrêtées, mais les deux conducteurs répondent exactement de la même façon, sauf les derniers mots. Alors, Trouscaillon a arrêté une voiture, et « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda le chauffeur agressivement à Trouscaillon qui s'approchait. « J'ai rien fait de mal, je connais le code de la route, moi, jamais de contredanse, et j'ai mes papiers. Alors quoi ?» Vous feriez mieux d'aller faire marcher le métro que de venir emmerder les bons citoyens. Vous n'êtes pas content avec ça? Ben, qu'est-ce qu'il vous faut? Il s'en va. Donc, première intervention. Et en bas de la page, la même chose. Une autre voiture s'arrête. Hein, on ne peut pas imaginer que ça soit la même. Et le texte est exactement identique, sauf la fin. Eh bien, allez vous faire voir chez les Marocains. Par les Marocains. Bon, alors, ces Marocains, est-ce que c'est une autre expression de racisme, comme on avait vu dans des paroles déjà précédentes? Alors, il faut se méfier, mais il y a un contexte personnel, disons, pour Queneau. Raymond Queneau a fait son service militaire dans les années 1920 en Afrique du Nord. Il était en Algérie et au Maroc. Et il a participé à une guerre à cette époque, donc une guerre, disons, coloniale des années 1920, qui s'appelle la guerre du Rif, qui est le nom d'une région du nord du Maroc, une région de montagne dans laquelle des tribus d'habitants s'étaient associées et révoltées contre la puissance envahissante, coloniale, qui était d'ailleurs formée de la France et de l'Espagne. Donc la France et l'Espagne se battaient contre des tribus locales qui s'appellent les Rifains, hein, les habitants du Rif, et qui avaient même créé une république indépendante qui s'appelait la République du Rif. Raymond Queneau est donc allé en Afrique du Nord, il a participé à cette guerre, il ne s'est pas lui-même battu sur le terrain, mais il était dans la troupe et il a vu la situation et il a été très marqué, très choqué par l'attitude, colonialiste, comme d'habitude, à cette époque. Quelqu'un faisait remarquer qu'il était d'ailleurs le seul écrivain du mouvement surréaliste qui a participé à cette guerre et à un conflit, disons, dans les années 1920. Oh, fut Trouscaillon choqué. Mais le type est parti. Alors, à la page 112, Zazie se moque un petit peu de Trouscaillon, hein, parce que ça ne marche pas très bien. Donc, elle est au comble de l'enthousiasme dedans lequel elle nage avec ravissement. Hein, vous voyez, ce « dedans lequel », c'est une autre formule précieuse ou un peu pédante qui n'est pas courante aujourd'hui et qui ressemble à ce qu'il y avait avant, par exemple « cependant que », hein, au début du chapitre. Donc, tout à fait par hasard, une voiture va venir s'arrêter, qui sera donc ce qu'on appelle une conduite intérieure, ça veut dire une voiture. Ce sont des paraphrases. Paraphrase pourrait d'ailleurs être le nom général, hein, pour toutes ces expressions que le narrateur utilise quand il n'utilise pas exactement un mot, mais une expression qui veut dire la même chose et qui peut être plus compliquée à comprendre, c'est une paraphrase donc précieuse ou pédante. Alors, si on veut être plus précis, précieux, c'est vrai que ça a une valeur historique qui peut être aussi positive. Bon, un peu moins sympa, c'est pédant. Pédant, là, c'est vraiment quelqu'un qui exagère, hein, en utilisant des mots difficiles pour embêter les gens. Et le pire, c'est le cuistre. Le cuistre, alors c'est celui qui fait vraiment exprès d'utiliser des mots difficiles en sachant que les personnes ne les connaissent pas. Cuistre ou cuistrerie. Alors ça, c'est une marque de mépris particulière, hein, de quelqu'un qui veut vraiment montrer à l'autre, hein, qu'il est tout à fait au-dessus de lui en utilisant des mots difficiles ou rares ou anciens. Cuistre ou cuistrerie. Le conducteur qui s'est arrêté est donc lui aussi de Saint-Montrond. Alors évidemment, c'est un hasard auquel peut s'amuser un écrivain, hein, sans problème. Et bon, libre comme l'air, je pense que vous comprenez. En bas de la page 112, hein, 2, 4, 6, 7 lignes en bas. Croyez pas ça, je suis libre comme l'air. Seulement, si c'était un effet de votre bonté de véhiculer aussi ces deux personnes, geste. Alors, Trouscaillon a trouvé une bonne idée, Hein, c'est-à-dire, comme cet individu, par hasard extraordinaire, veut aller à la Sainte-Chapelle, eh bien, il n'a qu'à emmener tout le monde. Donc, Trousse-Caillon, évidemment, mais également la dame et l'enfant. Alors, l'automobiliste n'est pas contre. Hein, ce qui l'intéresse, lui, c'est d'arriver. Donc, il est d'accord. Dernière ligne de la page 112. « Ma parole, dit la veuve de loin, on dirait qu'il a fini par réquisitionner un voiturin. » Réquisitionner, on trouve le mot ici, c'est le même. Et voiturin, là, c'est un mot tout à fait ancien qui ridiculise la bourgeoise, puisque ce mot était utilisé pour dénommer d'abord un homme qui loue une charrette, un chariot, hein, qui propose de porter les gens comme ça sur son chariot. Ça s'appelait un voiturin. Et donc pour voiturer quelqu'un. Et donc ici, ensuite, c'est devenu une voiture à cheval, louée par un voyageur, et enfin un moyen de transport, mais de façon tout à fait ridicule. Ah ben le voilà, le Zazie, objectivement, hein, en haut de la page 113. Tout à l'heure, on le cherchait. « Il va m'épater », dit Zazie, objectivement. On n'a pas l'habitude que Zazie soit sympa, soit gentille, comme ça. Amenez-vous en vitesse, le type nous embarque. Allons, dit la veuve moque, suce au kidnappeur. Bon, on reprend les expressions qu'on connaissait déjà. Une fois dans la voiture, on commence à discuter à propos de kidnappeur. Alors, le conducteur a entendu la veuve moque qui disait kidnappeur. Elle maintient son jeu de mots, elle garde son jeu de mots, mais l'automobiliste ne la connaît pas et il entend le mot classique kidnappeur que Queneau orthographie Q-U-I-D. Alors évidemment, tout de suite, l'automobiliste a peur qu'il soit vraiment question d'un kidnapping et il ne souhaite pas être concerné par cette histoire. Alors, Trousse-Caillon dit « C'est une simple apparence, vous pouvez y aller si vous voulez arriver avant la fermeture. » On démarre et Trousse-Caillon se penche pour siffler, écarter des voitures. Alors le conducteur est très content et on le guide. Tout en bas de la page 113, Zazie a dit, à propos de son tonton, elle a dit « Tonton mon cul », dit Zazie. Et cette expression l'a automatiquement fait reconnaître par le conducteur qui vient de la même ville qu'elle. Et donc, « Tiens, dit le conducteur, mais c'est la fille de Jeanne Lalofer, je ne l'avais pas reconnue, déguisée en garçon. » Bon, déguisée en garçon, ça veut dire un pantalon et les cheveux courts, elle ressemble à un garçon. « Vous la connaissez ?» demanda la veuve moque avec indifférence. « Je veux, » dit le type, « je veux, c'est-à-dire je la connais, je la connais bien. » Et il se retourna pour compléter l'identification, juste le temps de rentrer dans la voiture qui le précédait. Bon, vous savez que quand on conduit une voiture, il ne faut pas regarder derrière, hein. Donc il a eu un accident. Alors, Zazie est effectivement reconnu. Et puis, comme il y a un accident, l'autre conducteur sort, vient discuter. Alors quoi, on ne sait plus conduire, dit l'embouti descendu de son siège pour venir échanger quelques injures bourdonnantes avec son emboutisseur. Ah, ça m'étonne pas, un provincial. Au lieu de venir encombrer les rues de Paris, vous feriez mieux d'aller garder vos oies et vos os. Vos oies et vos os. Vos oies et vos veaux. Vous voulez essayer? Vos oies et vos veaux, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il faut s'appuyer sur les informations que nous avons. D'abord, le conducteur sort de sa voiture, il n'est pas content parce qu'il a été cogné par derrière. Et il regarde la voiture et il voit avec la plaque d'immatriculation, il voit que c'est une voiture de l'extérieur de Paris, avec un numéro de département de province. Donc, il dit, ça ne m'étonne pas, un provincial. Alors, ça veut dire que, systématiquement, les gens de la province ne savent pas bien conduire à Paris. Ce qui, d'ailleurs, peut être tout à fait vrai, parce que la conduite dans Paris, c'est assez spécial. Hein, vous avez peut-être essayé, ou pris des taxis. Il y a des grandes places comme la Concorde, la Nation, etc., où il faut avoir une certaine habitude quand même. Et puis des avenues aussi, bon, toutes sortes de choses. Donc c'est pas faux, mais c'est quand même insultant. Dans ce sens de provincial et de la part de quelqu'un qui n'est pas content, comment on pourrait essayer d'entendre, aller garder vos oies et vos veaux? Alors il s'agit de garder quelque chose ou quelqu'un, vos, donc vos, c'est-à-dire à vous, quelque chose à vous, vos oies et vos veaux. Donc on va entendre des noms d'animaux, hein, des oies et des veaux. Ça va les oies? Tout le monde connaît les oies et les veaux? Alors on va l'écrire en français, et puis ça va vous paraître tout de suite plus clair. Voilà, avec évidemment le choix de Queneau de choisir une expression dans laquelle il y a plusieurs liaisons. Plusieurs liaisons et des répétitions de sons qui sont tout à fait propres à la confusion. La confusion pour n'importe qui, c'est-à-dire assonance. Assonance, c'est la répétition de la même voyelle. Wa, wa, wo, wo, vos oies et vos veaux. On retrouve donc l'assonance en wa, en o. Et allitération, c'est la même consonne. Donc zoisé, et puis vo, vo, ve, ve, deux fois. Donc l'association de tout ça forme une sorte de bouillie, hein, de paquet de sons qui est presque impossible à comprendre si on le dit très vite. Bon, c'est toujours les mêmes jeux, hein, évidemment, de Queneau. Alors, le vos oies et vos veaux sera répété à la page 118. Donc, quand même, Raymond Queneau s'est fatigué, hein, pour le faire. Alors, il peut l'utiliser deux fois. Ce sera presque au milieu de la page, hein, 118. Alors quoi, on ne sait plus conduire? Ah, ça ne m'étonne pas, un provincial. Hein. D'ailleurs, c'est la même scène, hein, qui se répète. Donc, on a vu deux fois, une scène se répète deux fois. C'est un comique de situation, évidemment, mais avec aussi un comique de langage. Vos oies et vos veaux, adressés aux provinciaux. À la page 114, toujours, juste après cette intervention. « Mais monsieur, dit la veuve Mouaque, vous nous retardez avec vos propos morigénateurs. Nous sommes en mission commandée, nous allons délivrer un guide nappé. » Alors, morigénateur, ça vient de morigéné, qui veut dire protester. Oui, ça, à l'origine, ça veut dire instruire quelqu'un pour connaître les bonnes façons de vivre. Donc c'est d'abord une sorte de pédagogie, d'instruction. Mais c'est devenu très rapidement le sens de reprocher, réprimander quelqu'un parce qu'il a mal parlé, parce qu'il s'est mal comporté. Donc, morigéner au sens de réprimander. Alors, on voit que c'est surtout depuis qu'il y a cette dame dans l'histoire, elle utilise des mots et des tournures, des expressions un peu anciennes, archaïques ou précieuses, et on peut penser aussi que le narrateur est en quelque sorte influencé par les personnages qu'il a autour de lui. Lorsqu'il n'avait avec lui que des personnages ayant un langage vulgaire, Zazie, Charles, etc., le narrateur lui aussi était très vulgaire. Maintenant que cette dame moque est arrivée, qui s'exprime d'une façon comme ça, beaucoup plus soutenue, le narrateur lui aussi s'exprime d'une façon soutenue. Alors on ne sait pas qui influence qui, mais on a l'impression vraiment d'une relation intime hein, dans les façons de s'exprimer entre les personnages et le narrateur. Quoi, quoi, dit le Sentimontronais, moi je marche plus, je suis pas venu à Paris pour jouer au cow-boy. Je crois que là vous entendez bien un cow-boy, hein, bien qu'il s'écrive d'une façon extrêmement originale. Hein. Jamais personne n'avait écrit cow-boy comme ça, avec O-I-2-L-E, mais ça se prononce très bien, hein, ça correspond exactement à la prononciation américaine. Enfin, pas tout à fait, quand même, c'est cowboy, un petit peu la même chose, pas la même chose que cowboy, mais à la française. Voilà, Sancti-Montronais, on avait vu déjà, hein, c'est l'habitant de Saint-Mont-Rond, la même ville que Zazie. Alors, ce conducteur qui a été accidenté, comme il y a un policier, le policier fait semblant de noter quelque chose, comme si on faisait un constat, et il lui demande de partir. En bas de la page 114, vous avez votre carte grise, Trouscaillon fit semblant de l'examiner, pas de passeport diplomatique, négation écœurée, ça ira comme ça, dit la Trouscaille, vous pouvez vous tirer. Alors quand même, il a vérifié un passeport diplomatique, hein, parce que c'est quand même un statut spécial. Si quelqu'un a un passeport diplomatique, on peut avoir des gros, gros problèmes. Donc il vaut mieux éviter. Mais ça tombe bien. Ça ira comme ça, dit la Trouscaille. Ici, le nom de Trouscaillon est transformé sur le modèle de mots en aille. Les mots en aille qui correspond toujours à un groupe de quelque chose, un ensemble de quelque chose. Par exemple, assez familièrement, pour les flics, un ensemble de flics, les flics, on dit la flicaille. La flicaille qui veut dire donc l'ensemble, le groupe de flics, mais avec un sens quand même assez péjoratif, assez méchant. Donc ici, la Trouscaille, qui justement est un policier, donc ça correspond normalement. À la page suivante, on repart, mais le Sentimontronais ne bougeait plus. Alors il faut le convaincre de repartir, puisqu'il est sûr maintenant d'être en retard, hein, d'arriver trop tard. Il ne veut plus les emmener. Bon, on va le convaincre. Alors, Zazie invoque en quelque sorte le côté régional. Chez nous, on n'est pas comme ça. Donc elle dit, dans mon bled, on est moins trouillard. Trouillard, c'est quelqu'un qui a peur, peureux, trouillard, avoir la trouille. Ça, c'est pour l'exhorter, hein, le pousser à redémarrer. Attends, quand même, chez nous, on n'a pas peur comme ça. Hein. « Oh, toi, dit le type, je te connais, tu ferais se battre des montagnes. » C'est une très belle expression qui existe en français depuis longtemps et qui exprime bien l'idée que quelqu'un est toujours provocateur. C'est-à-dire que même des montagnes qui sont loin, qui ne peuvent pas bouger, il y a quelqu'un qui pourrait réussir à les faire se battre entre elles. C'est une très belle image, je trouve, pour exprimer le caractère de Zazie, le caractère provocateur de Zazie, qui pousserait n'importe qui à devenir agressif ou à se battre avec quelqu'un d'autre. C'est vache, ça, dit Zazie. Pourquoi vous essayez de me faire cette réputation dégueulasse ? Bon, réputation dégueulasse, je crois que ça n'a pas besoin d'être expliqué. Alors, le conducteur a toujours besoin d'être convaincu, et vers le bas de la page, bon, on promet, tout va bien se passer, etc. Bon, vous me le promettez, puisque je vous le dis, c'est pas une histoire politique avec toutes sortes de conséquences emmerdatoires. Mais non, c'est juste une blague, je vous assure. Donc, on a expliqué que kidnapper, c'était pas un vrai kidnapping, c'était une blague, une histoire entre des amis, donc il n'y a pas de danger. Bon, d'accord. Pour exprimer d'ailleurs finalement s'il existe un danger ou pas, le conducteur a demandé, c'est pas une histoire politique avec toutes sortes de conséquences emmerdatoires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà à l'époque de Queneau, il existe un certain contexte d'enlèvement politique. Les enlèvements politiques, en fait à toutes les époques, hein, ça a existé, mais ça existait en cette époque aussi, cette époque de guerre coloniale ou d'autres types de guerres. Alors, si on demande à des Français comme ça aujourd'hui, on pense tout de suite à un enlèvement politique très important qui a fait beaucoup de bruit, qui était l'enlèvement d'un leader d'Afrique du Nord qui s'appelle Ben Barka. L'affaire Ben Barka. Il a été enlevé par des policiers à Paris, boulevard Saint-Germain, devant la brasserie Lip, très connue, dont il sortait. Et ensuite, il a disparu, etc. Mais cet enlèvement a lieu en 1965, c'est-à-dire après la publication de Zazie dans le métro. Donc, ça ne peut pas être en référence à cela. Alors j'ai cherché un petit peu, et personnellement, des enlèvements que je ne connaissais pas, mais il y en a d'autres, et par exemple, j'ai découvert en 1958, donc en 1958, oui c'est ça, le 23 février 1958, un personnage très connu a été enlevé. Il s'agit d'un pilote de course automobile qui s'appelle Fangio. Donc, peut-être vous avez déjà entendu son nom, Fangio, qui était à cette époque vers la fin de sa carrière. Ça dit quelque chose à quelqu'un, le nom de Fangio ? Comme pilote automobile, hein, surtout des années 30, des années 30-40. Bon, et alors, il était allé à Cuba pour le Grand Prix de La Havane, donc Habana en espagnol. Et après ce Grand Prix, il a été enlevé. Il a été enlevé par les militants de la révolution de Cuba. Et il a été libéré 24 heures après. C'était juste pour montrer leur force, leur organisation, leur détermination. Et évidemment, comme Fangio était très connu, cet enlèvement a fait, en effet, beaucoup de bruit à cette époque. Et comme Raymond Queneau écrit Zazie justement à cette époque, 58-59, il y a quand même ce contexte. Parce que la révolution de Cuba commence précisément au début de 1959. Donc c'est exactement le même contexte. Ah, donc les premiers jours de 1959, les troupes de Fidel Castro envahissent la ville de Cuba, la Havane, les autres villes de Cuba, et prennent le pouvoir. qu'ils ont gardé depuis jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les inconvénients. Donc dans ce contexte, on est vraiment très près du moment de l'écriture de Raymond Queneau, et il est tout à fait possible que cette remarque de l'automobiliste soit en relation avec ce genre d'enlèvement, comme celui de Fangio. D'ailleurs, l'automobiliste est lui-même dans une voiture, comme Fangio était dans une voiture aussi. Donc il y a une coïncidence du contexte. Alors, ils avaient tout juste, c'est là, en bas de la page 115, ils avaient tout juste parcouru une distance de quelques toises, là encore, expression pédante du narrateur, toise, c'est une vieille mesure de distance qui correspond à l'écartement de deux bras, comme ça, la distance entre deux bras. Et donc ça fait à peu près 1,80 m. Alors il y a des toises dans différentes régions européennes qui sont entre 1,60 m et 1,80 m, mais on n'utilise plus du tout à cette époque, surtout en France, le système métrique s'est tout à fait imposé. Donc l'expression de toise est archaïque et volontairement pédante. Alors quand même, 4 heures sonnèrent au clocher d'une église voisine. 4 heures. Mais tout à l'heure, on n'a pas dit qu'il était 4h15. Quand on a demandé l'heure à la dame, elle a répondu 4h15, non ? Il me semble. Hein. Bon, donc, on ne sait pas très bien l'heure qu'il est, mais voilà, bon, c'est l'église maintenant. 4h sonnèrent. Apparemment, ça veut dire la fin des visites de la Sainte-Chapelle. Je ne sais pas les horaires aujourd'hui, mais c'est la réponse du Sancti Montronet en haut de la page 116. C'est foutu. C'est-à-dire que c'est trop tard. À la page 117, toujours au sujet de la Sainte-Chapelle, qu'on ne peut plus visiter, le Sancti Montronet s'est exprimé « Oui, mais, et la Sainte-Chapelle ?» Et Trouscaillon répond « Ça, faut avouer. » Qu'est-ce que ça veut dire, hein ?« Ça, faut avouer. » Bon. Et donc, Queneau explique cette simple ellipse utilisait hyperboliquement le cercle vicieux de la parabole. Alors, dans cette explication, le narrateur utilise 3 termes de rhétorique. Ce sont des figures de style, c'est-à-dire l'ellipse, l'hyperbole, la parabole. Qu'est-ce que c'est l'ellipse ? C'est le fait de sauter ou d'abandonner des mots qu'on ne dit pas. C'est-à-dire, ça, faut avouer, il manque des mots. Pour avoir une phrase complète, il manque des mots. D'abord, il, on peut le trouver facilement. Ça, il faut avouer que, etc., etc. Alors, ça vient en réponse à « Oui, mais, dit le Sancti Montronet et la Sainte-Chapelle », bon, réponse de Trouscaillon, qu'on pourrait imaginer comme une réponse correcte, à propos de ça, la Sainte-Chapelle, il faut avouer que vous n'avez pas de chance, par exemple. Il faut avouer que c'est bien dommage. Il faut avouer que tant pis pour vous. Bon, on pourrait imaginer plusieurs possibilités. Toutes ces possibilités ont le même sens, exactement le même sens, qui est un sens de regret, comme si Trouscaillon disait « Bon, bah, je regrette pour vous, c'est dommage, tant pis ». Tant pis pour vous, voilà. C'est-à-dire le sens de zannen desne. Alors, quels que soient les mots que Trouscaillon peut utiliser, le sens de cette réponse sera toujours le même. Ce sera toujours le sens de zannen desne. Queneau a donc simplifié l'affaire, il a enlevé tous ces mots, c'est une ellipse. Cette ellipse utilisait hyperboliquement Hyperbolique, ça veut dire de façon exagérée. On augmente l'intensité. Par exemple, l'intensité du regret. Le regret est plus fort parce que on ne finit pas la phrase. Ça, faut avouer, hein, on n'a même pas de mots pour exprimer le regret. C'est une forme hyperbolique. Et on finit par le cercle vicieux de la parabole. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une parabole ? C'est une histoire. C'est une histoire qui doit illustrer un sens moral. Par exemple, Jésus-Christ ne dit pas ce qu'il faut faire, mais il raconte une histoire. Il exprime par une parabole le sens de sa parole, de sa recommandation. Et donc la parabole a toujours ce sens de histoire dans laquelle on doit trouver une morale, un sens moral. Donc ici, peut-être, le regret de ne pas voir la Sainte Chapelle doit être compris comme un sens que ça n'a pas besoin d'être visité ou que ça sera pour une autre fois. Hein, donc une sorte de parabole. Voilà. On est obligé de s'arrêter ici puisqu'il est moins 5, mais on est presque arrivé à la fin du chapitre, puisque à la page 118 on retrouve vos oies et vos veaux qu'on a déjà vu, et on sort de la voiture après être arrivé dans l'autocar. Donc la semaine prochaine on pourra reprendre le chapitre 11. On n'a pas beaucoup de retard. C'est très bien. À peu près. On a un chapitre de retard. Et vous savez qu'à la fin, le dernier chapitre est très court. Donc, si on a un chapitre de retard jusqu'à la fin, c'est pas très grave. Voilà. Au revoir. À bientôt.